11h dans le bureau de Par Jupiter.
Bonjour Alex.
Bonjour.
Ça me fait hyper plaisir de te revoir.
Mais moi aussi. Alors là.
J'ai commencé à préparer le conducteur du jour.
Excusez-moi juste, ça va vous paraître incongru, mais.
Oui.
Vous êtes qui?
Mais Alex, enfin, mais c'est moi, c'est Charline.
Charline. Alors ça me dit quelque chose, mais.
Alex, mais réveille-toi, Alex, enfin c'est fini les vacances là.
Mais non.
Mais si.
Mais c'est Charline Valounaker. Vous savez, j'en reviens pas, mais si je m'attendais à ça.
Ah oui, alors je vais te faire une petite surprise.
Ah bah tu tombes bien, tiens. Faudrait que tu m'épluches tout le courrier des auditeurs, parce que...
Attends, que j'épluche.
Ah bah, qu'est-ce que tu crois? Il s'est passé des choses hein, depuis que t'es parti.
Ah bon? Bah moi j'ai pas eu l'impression.
Ah bah si, on est devenu efficace.
Ah bon, bah ça s'entend pas tellement alors.
Ah bah si, je t'assure. Ah bon, enfin, je dirais c'est moins rigide, on s'autorise plus de choses, tu vois.
Ah, c'est bien.
Voilà, on laisse libre cours plus à notre imagination.
Super.
Et on a arrêté cette histoire là de vouloir changer le monde, tout ça.
Quoi?
Ouais, mais non, depuis que j'ai repris le poste.
Attends, t'as pris le poste, t'as assuré l'intérim, quoi. Je veux dire, t'es un peu le Alain Poher de Par Jupiter.
Écoute, on est vendredi, donc tu vas prendre le rôle de Clara. Je vais t'expliquer comment on fait maintenant.
Mais tu vas rien m'expliquer du tout. Puis le courrier des auditeurs, ce sera pour toi, mon petit pote, hein. Tiens.
Ok, donc on reprend les bonnes vieilles habitudes. Enfin, bonnes,
Évidemment, c'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures soupes. Allez hop, et d'ailleurs, je veux plus t'entendre.
Sinon, ça va, Charline? Tu t'es bien reposée?
Ça va très bien.
Non, je me disais, peut-être te mets pas la rate au courbouillon tout de suite. Faut pas hésiter à reprendre un peu de repos.
Chut. Je vais le dire très calmement, Alex.
Oui.
Au boulot.
D'accord. C'est qui, Alain Poher?
France Inter.
Bonjour la France Inter. Pardon, c'est le réflexe.
Et bienvenue.
Pardon.
Bienvenue. Ah là, il n'y a rien.
Dans l'émission qui?
Ah non. Bienvenue au sein de la branche armée de la rigolade. Et voici la devise du jour. Qui veut la paix prépare un joli poème en alexandrin à la gloire de Vladimir Poutine. Bonjour Alina Panoukoé.
Bonjour.
Il est toujours question de musique avec vous, mais pas d'un disque cette fois, d'un documentaire d'Alan Brain intitulé The Rumba Kings. La rumba, ça ambiance tellement que ça se demandait si il existe des gens qui n'aiment pas ça, la rumba.
Tu te souviens de la troupe Daddy Dou?
Oui, bien évidemment.
Allez, Daddy Dou. Parce qu'ils étaient doués. C'était autre chose.
Christine Gonzalez, bonjour.
Salut Charline, salut tout le monde.
Mais vous êtes là avec nous en studio, car vous venez de Suisse, vous avez donc franchi les Alpes et les mystères de l'au-delà. Apparemment, vous connaissez le digicode pour l'au-delà, car vous proposez une interview posthume avec quelqu'un qu'on a très envie de retrouver, n'est-ce pas?
Oui, absolument, on va prendre des nouvelles de l'acteur, réalisateur, producteur, humoriste Jean-Yann.
Oh. Ah oui.
Ça va Jean-Yann? Qu'est-ce que vous racontez de beau?
Je bois du jus de raisin, je mange du pain d'épices, je fais la pause café. Mm-hmm. Et je m'emmerde.
Allez, pour briser cette routine, alors bonjour Frédéric Fromet.
Salut Charline.
Vous allez prendre des risques aujourd'hui. Oui, à vos risques et périls, car vous chanterez une ode à Vladimir Poutine.
Mais là, tu vois, tu vas avoir un gros problème. Tu sais ce que tu vas faire? Tu vas aller embrasser ta mère une dernière fois.
On l'embrasse aussi, on en profite. Et à mes côtés aujourd'hui, donc... Alex Vizorek.
Bonjour Charline Valounaker. Eh ben c'est pas mal aussi hein, quand vous présentez.
C'est
vrai. Vraiment, il y a quelque chose. Y a quelque chose.
Alors.
Ajoutons donc à cela dans l'équipe l'homme qui nous regarde de très haut. Il vole, comprenez bien, il vole sans fumer, sans... Ouais. C'est Hippolyte Girard.
Bonjour Charline. Eh ben, pour votre tour, ma chère Charline, j'ai préparé votre débrief.
Mais enfin,
ça va être sympa. Ensuite, parce qu'on a le temps, parce qu'on l'aime beaucoup, mais surtout parce qu'on fait ce qu'on veut, on écoutera une chronique de Juliette Arnaud. Ajoutons à cela un journal prototype, un quiz d'actu un peu cheap, un dessin pour que tu participes, et vous obtenez une émission qui retrouve enfin l'équipe type.
France Inter, Charline Vanhoenacker, Alex Vizorek,
Par Jupiter.
Et cette séquence du courrier des auditeurs est une séquence émotion pour moi. Merci pour vos nombreux messages que j'ai lus avec beaucoup de bonheur. Alors évidemment, ma modestie m'oblige à n'en point trop citer. Évidemment, je n'en lirai donc qu'un qui résume assez bien l'ensemble. Laurent m'écrit « Vous voilà enfin de retour, vous m'avez manqué. L'équipe a bien assuré en votre absence, mais moi qui vous écoute tous les jours depuis 7 ans et demi, chaque jour, j'étais perdu sans vous. vous. Hein. Je vous souhaite donc, me dit-il, un excellent retour. Continuez, ma chère Charlotte. Alors, Laurent, comment dire ? J'espère qu'il existe sur RTL ou sur Europe 1 une Charlotte qui officie depuis 7 ans et demi et qui a justement été absente les 3 mêmes semaines que moi. Sinon, je vais mettre des doutes sur la sincérité de votre message, mais c'est l'intention qui compte, bien sûr. Anne nous écrit... je vous écoute depuis un certain temps et je suis désemparée quand j'entends à quel point l'alcool et autres substances font partie de votre quotidien. C'est vrai que ça s'est vu ma cure de désintox pendant 3 semaines. Travaillant dans un centre d'addictos, je me suis dit que l'équipe a besoin d'aide.
Oui, c'est vrai.
J'ai une bonne nouvelle, mon association Addiction France fête cette année ses 150 ans à la Maison de la Radio. Ils ont dû commencer avec l'absinthe, j'imagine, à l'époque. Je pourrais ainsi vous rencontrer et parler alcool avec Juliette ou addiction au sexe avec Alex. Elle ne mentionne ni Polyte ni VDB.
Elle, elle a envoyé une photo.
Elle dit des solutions existent, ne restez pas seule face aux addictions. Alors elle met PS, PS. Moi aussi j'ai une petite addiction, dit-elle. Si vous pouviez rajouter quelques brèves.
Ah, dirais, on va s'entendre. Dirais,
chère Anne, nous avons donc un point commun parce que moi, à chaque brève, je bois un shot. Et enfin, Agathe nous remercie de l'accompagner dans sa première transatlantique à la voile. Wow. Elle nous dit, à chaque escale, je télécharge les épisodes qui ont été diffusés les jours où j'étais en pleine mer. Pour les écouter plus tard. Lorsque je n'aurai plus aucun réseau au beau milieu de l'océan, vous êtes donc ma seule source d'information sur le monde pour les 15 prochains jours. J'espère que vous n'avez pas le mal de mer. Écoutez, si Agathe, vous vous informez exclusivement à travers nous, vous risquez de devenir la seule survivante de notre civilisation. Hein, encore un mois d'actu en continu et nous serons tous en dépression. Et je peux vous dire, j'ai pris une petite longueur d'avance à ce sujet. Voilà.
Voilà, voilà.
Quand il trouve qu'il n'est pas clair à l'écrit, lui, il a la chance de pouvoir dessiner magnifiquement bien. Et aujourd'hui, il fait de la radio.
Il fait de la radio, c'est un imbécile.
C'est Hippolyte Girardot, bien sûr.
Eh oui, Charline, she's back. She's fucking back, man. Elle a fugué. Bon, bah, ça arrive, hein, même dans les familles, très bien. Faut pas s'énerver. Alors, je vous le dis, toutes sortes de rumeurs ont circulé. Ça s'inquiétait. Mais où qu'elle est? Qu'est-ce qu'elle fait? Reviendra-t-elle? Bref, l'actu à France Chaumière, c'était votre disparition, ma chère Charline. À part Jupiter, on avait dressé un petit hôtel avec une poupée, un serre-tête autour des cheveux. Et on répétait des au boulot, laborieusement, mais ça commençait à sonner tous au bungalow ou bien un autre mojito. Enfin bref, ce genre-là, ça partait en sucette. Alors qu'en fait, aujourd'hui, on peut le dire, on le sait, la France entière le sait. Vous étiez parti mettre au point la semaine de 3 jours.
Ah oui.
Yo, Charlie, yo. C'est pas encore un vrai programme politique, mais franchement, ça vaut bien le reste. Parce que là, on va voter en France, hein, je vous explique. Mais programme, programme, ça reste vague et on en est plutôt à choisir entre des images, entre des affiches. On croit que c'est simple, mais en fait, non. Non, pas du tout. Par exemple, juste Taubira sur fond violet. Bah, c'est subliminal, le violet. Le violet, c'est l'idée, c'est quoi? C'est Prince ou bien le pape? D'autant qu'elle elle pose la main sur la poitrine, elle lève les yeux au ciel. Peut-être quelqu'un lui parle de là-haut, je sais pas. Ou alors, avec vous, pour celui qui veut juste être président sans passer par la case candidat. Avec vous, mais jusqu'où? Et pourquoi faire? T'imagines le type, je viens avec toi. Comment ça, tu viens avec moi? Bah non, moi je vais voir ma copine, j'ai pas envie que tu viennes là. Non, tu viens pas avec moi. C'est quand même spécial comme slogan. Ou encore, réunir la France. Ça c'est le slogan de Hidalgo. Bah c'est idem, une fois réunis quoi? Bon, on est tous là à poil à la plage, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Hein? C'est pas facile, c'est pas facile. Il y en a un quand même, j'aime bien. Il se débrouille pas mal pour faire le break. Il navigue à la godille, on est d'accord, c'est pas un hors-bord, mais il avance. C'est Roussel, le communiste. On l'avait remarqué déjà avec son repas français. Alors lui, son affiche, c'est assez marrant, c'est du violet, voire du mauve, et dans un petit coin, il y a du rouge. Alors on ne sait pas si ça vient du violet au rouge ou du rose au mauve, c'est psychédélique, je vous l'explique, c'est psychédélique. Et il est là, sans cravate, on dirait Dubosc et sa chaînette, quoi. Il te regarde droit dans les yeux, genre, on y va ou bien? Et en dessous, le slogan, c'est « Le défi des jours heureux ». Les yeux ardents, les jours heureux, le mauve comme les moquettes dans les clubs échangistes, tu te demandes un peu, c'est quoi ce truc, quoi, ce plan genre à plusieurs? Remarque, à plusieurs, c'est communiste, en même temps, c'est pas complètement idiot. Ça se tient, ça se tient, ça se tient. C'est de la godille, je vous dis. Il fait son chemin. Il a même réussi à faire mouche en meeting.
Ce qui coûte cher, c'est sa théorie du ruissellement. Eh bien moi, je vous propose une autre théorie, le roussellement.
Ah, dis donc le gars, T'as vu comment il a dit? Non, mais c'est le roussellement. Mais que c'est pas con. Tous les autres candidats ont dû se dire, merde, pourquoi je m'appelle Pécresse, quoi? Pourquoi je m'appelle Mélenchon? Mais pourquoi? Pourquoi je m'appelle Le Pen? Parce qu'un suffixe, ça change tout. Ça dit tout. C'est une des grandes subtilités de la langue française, le suffixe. On se rappelle qu'on appelait les soutiens de Ségolène Royal les royalistes. Bah, c'était mort, direct. Item pour Hollande, on les appelait les Hollandais. Allez, tête, dehors. Le Pen, elle a déjà son suffixe, c'est lié à son verbe, le péniser. On dit la lepénisation des idées. On sait très bien ce que c'est, voilà. Mélenchon, il n'en a pas, non? Alors après, c'est comme un costume, il faut bien le choisir, parce qu'une fois qu'on te l'a taillé, c'est pour l'hiver. Mélenchonien, ben, c'est mécanique, ça, c'est une fonction, voilà. Fait mécanicien un peu. Mais mélenchoniste, c'est déjà engagé, il y a un peu d'idéologie derrière. Oui, mais ça peut faire aussi machiniste. Donc ça marche pas très très bien. Pécresse, c'est encore plus délicat. Parce que pécressiste, c'est imprononçable. J'y arrive même pas. Pécresseuse, on se demande ce que ça veut dire cresser. Franchement, cresser. Non? Après, il y a précrétienne. Bon, on dirait une époque géologique. Oui, alors au temps du pécrétien, chers enfants, on ne s'est pas gagné. Tandis que...
Le roussellement.
Remarque, faut faire gaffe, hein. Parce que si tu l'entends trop...
Le roussellement.
Bah là, oui, effectivement, on entend le roussel, là, il ment. C'est sûr. C'est pas si nickel que ça. Il faut encore un peu qu'il travaille, quoi. Au boulot, comme vous dites si bien, ma chère Charline. À propos d'ailleurs, si votre programme de 3 jours, oui, disons, sert de base, ok? Hein? Moi, oui, je propose pour le mouvement de le nommer le Charlinage. Parce que déjà, ça rime avec nage. Et nager, c'est un rêve, n'est-ce pas? On est tous d'accord. Et ça donnerait Charliné, qui rimerait avec Caliné. Et qui osera dire aujourd'hui qu'on n'en a pas besoin?
Oh, et que dire de l'hypothélitisation de la chronique?
Tout à fait. Ah,
j'ai essayé, je me suis vautré, c'est pas grave.
Compliqué.
Et c'était bien.
Merci, Hippolyte Girardot.
Mais à votre service.
Tout le monde pense... Tout le monde pense, tout le monde danse aussi, 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 tout le monde danse, tout le monde danse, tout le monde pense aussi, 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 ok, tout le monde pense.
Nicholson, Tout le monde pense sur France Inter. Vous écoutez Par Jupiter. Et c'est le moment du journal, bien sûr.
Hervé Claude, Jean-Claude Narcy, faites place, ténor du journalisme. J'arrive.
Le journal de presque 17h17.
17h17. Ah non, moi, 15h15.
Et on commence par les titres.
Un sondage indique qu'Emmanuel Macron est celui qui a le plus de qualités pour être président devant Marine Le Pen et Valérie Pécresse.
Ah, quel dommage qu'il ne soit pas candidat. Hein. Ça, c'est pas long.
En revanche, le président s'est investi personnellement dans un débat footballistique. Il aurait conseillé à Kylian Mbappé de rester au PSG plutôt que d'aller au Real de Madrid.
Et c'est un gros événement car de nos jours, c'est très rare qu'une stratégie venant de l'Elysée ne soit pas facturée par le cabinet d'études McKinsey.
Des brèves ?
Oui, Charline, je le savais. C'est le plus beau cadeau que je pouvais vous faire pour votre retour. C'est vraiment des belles, belles brèves.
Et vraiment, ça me touche énormément.
Une claque, ça va.
Oh là là, je suis revenu pour ça d'ailleurs.
Attendez, il y a d'abord le journal. Hein.
Ah, mais d'accord.
Pas d'excès. Commençons par une info venant de l'Elysée.
Oui, Brigitte Macron assigne en justice deux femmes qui ont propagé la rumeur selon laquelle la première dame serait en réalité un homme.
Et ouais, mais ça fait quand même beaucoup de rumeurs complètement folles autour du couple. Brigitte qui serait un homme, Emmanuel Macron qui serait un homme de gauche.
On attend donc de savoir si ces deux femmes seront condamnées.
Oui, et ben ça serait bien fait. Ça leur apprendra à casser les couilles de la première dame.
Éric Dupond-Moretti était invité sur France Info. Il a défendu son bilan. Il a déclaré, je cite, « Ce que nous avons fait pendant ce quinquennat, personne ne l'a fait avant. »
Et ben, pour une fois, il a raison, ce gars-là.
Oui,
on a changé un peu la ligne de l'émission. Un ministre de la Justice mis en examen qui ne démissionne pas, on l'avait jamais vu avant.
Ouais, c'est vrai. Passons à l'extrême droite. Jordan Bardella estime que Nicolas Bay a voulu feuilletonner son départ en essayant de faire le plus de mal possible.
Et un feuilleton qui est douloureux à regarder, dont les rebondissements sont tirés par les cheveux et où les intentions des protagonistes sont très peu subtilement dévoilées. Voilà donc le pitch de Plus belle la vie.
Excellent.
Bravo.
Sans transition, vous êtes tombé sur un bien beau débat sur LCI entre Yves Tréhard et Jean-Michel Apathy.
Oh oui. Alors, ce dernier, Jean-Michel Apathy, a expliqué que quand Dieudonné a été condamné pour antisémitisme, il n'a plus eu sa place dans les médias et que c'était très bien ainsi. Mais que quand Éric Zemmour a été condamné pour racisme, on lui a donné de plus en plus d'émissions. Eh oui. Et que donc, c'était assez surprenant. Et Yves Tréhard a tenté de l'expliquer. C'est pointu, écoutez bien. la différence.
Parce qu'il y en a un qui s'en prend à une race. Enfin, ce qui définit comme une race, ce sont les juifs qui sont coupables de par leur origine, leur race, alors que Zemmour, c'est jamais ce qu'il a dit. Il ne s'en prend pas aux Arabes parce que.
Vous rigolez ou quoi ?
Arabes.
Il a été condamné. Hein.
Il s'en prend aux Arabes parce qu'il dit que ce sont des voleurs. Ça n'a rien à voir.
Voilà. Alors texto. On n'a rien coupé. Hein. Et je pense que le sketch des inconnus sur le bon et le mauvais chasseur, il faut arrêter d'en faire des remakes parce que c'est un petit peu ce qu'il a fait Yves Tréhard.
Effectivement. Et on dit, c'est le directeur adjoint de la rédaction du Figaro.
Eh ben c'est bon. Alors c'est bon. Je crois qu'au Figaro ils sont au mur pour le rachat par Bolloré. Je pense aussi.
Une page internationale. Un juge de New York décide que Donald Trump doit témoigner dans une enquête sur ses pratiques fiscales.
Eh oui, après la Golden Shower, Donald Trump risque de découvrir bientôt le fisc.
un peu de culture.
Et c'est douloureux.
Enfin, culture. Sur Instagram, la ministre de la Culture, Roselyne Bachelot, a partagé une photo aux côtés de Brad Pitt qu'elle a croisé au détour d'une visite au musée de la Bourse du Commerce.
Eh oui, pour peu que Roselyne Bachelot ait ensuite croisé Jean Castex, on aurait la définition exacte de l'ascenseur émotionnel.
Allez, on parle transport, car sur BFM TV, le PDG d'Airbus s'est félicité de la reprise dans l'aviation. On repart sur une phase de croissance, a-t-il dit.
Et oui, et donc vous continuez bien à faire pipi sous la douche. Hein. C'est très très important pour l'écologie.
En télévision, hier soir sur C8, Yann Moix a quitté le plateau de Balance ton poste en plein direct et en disant « il faut arrêter les conneries ».
Et oui, c'est toute une manière pleine de panache pour Yann Moix de dire qu'il mettait un terme à sa carrière.
Et des brèves.
Et des brèves. Dites-le avec plus enthousiasme.
Oui, il y a des brèves.
Non, parce qu'on a l'impression que...
Là, je recommence. 3, 4... Et des brèves.
Ah, bah oui, là on sent que vous en avez envie, quoi.
Ah, tellement. Oh Alex, oui, encore. Des brèves. Ah oui. Arrêtez. Oui, des brèves.
Ça me rappelle ma jeunesse.
Oh, ça y est, je sens les brèves. Allez-y.
Attendez, concentrez parce
non,
que
c'est vous qui êtes trompé.
Oui, déjà. Mais c'est un petit peu triste. La première brève est un petit peu triste.
Oh oui, d'accord.
Il subit 3 chimios, le retrait de sa prostate et de sa vessie à cause d'une erreur de l'hôpital. Et comme dit le proverbe, c'est l'hôpital qui se fout du charcutier.
Oh, c'était tellement...
On remet ça ? J'ai droit à une dernière. Allez, on remet ça. Alors, et ça, je le fais plus, hein, normalement, mais je le fais pour vous. Lande, 2 points, ça c'est aussi terrible. Il dit pain au chocolat. En entrant dans un bar, au lieu de chocolatine, une bagarre éclate. Une réaction qui tente à prouver que ceux qui disent chocolatine sont des sauvages.
Et la bam du courrier,
ce sera pour,
ce sera pour vendredi prochain, tout ce courrier. Merci Alex Vizorek.
De rien, Charlie Dolenacker.
Je pense qu'après tout ça, on mérite tous une large séquence culturelle. Dans les rayonnages musique où l'on croise souvent une certaine Aline Afanoukoé.
Qui déambule. Alors, ben voilà. La belle union entre Papa Wemba et Koffi Olomide, deux monstres sacrés de la musique congolaise, pour vous parler de The Rumba Kings, un documentaire qui nous replonge dans les années cruciales qui ont précédé l'indépendance du Congo. Mes amis belges. Alan Brain, son réalisateur, retrace les origines de la rumba congolaise et revient notamment sur le lourd passé colonial du pays.
La relation entre les colons belges et les autochtones congolais était dure. Les Congolais étaient traités comme des esclaves.
Le Congolais était considéré comme un être inférieur par rapport à l'homme blanc qui lui avait tous les droits dans la colonie.
Récemment entrée officiellement dans le patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO, la rumba congolaise est une arme de résistance massive qui a contribué à la lutte contre l'oppression de tout un peuple et qui lui a permis de se forger une véritable identité nationale.
La rumba congolaise, ce n'est pas seulement la musique. La rumba congolaise, ce n'est pas seulement la danse. La rumba congolaise, c'est un état d'esprit. La rumba congolaise, c'est la passion de vivre.
La passion, la rumba comme ADN, un genre musical qui se transmet de génération en génération, et une danse aussi, qui part du nombril et tire son origine d'une danse ancestrale appelée Nkumba, qui signifie la taille en Kikongo. Mais si vous êtes plus à l'aise, Alex Vizorek, avec Ndombolo, il n'y a pas de souci. Cette musique...
Vous seriez surprise.
Démonstration.
J'ai un petit style.
Cette musique qui se joue lors des célébrations ou des deuils est aussi, vous l'aurez compris, une arme de séduction massive. L'une de ses particularités est que le chanteur n'hésite pas à se mettre dans la peau de la femme qui souffre pour mieux transmettre ses émotions. Comme ici dans Mario, le tube du maître de la rumba congolaise, Franco, qui raconte l'histoire de ce Mario qui vit au crochet de sa douce.
Mario, Lucana no Mosana. Ah, Mario.
Traduction, les produits de beauté que j'utilise pour avoir la peau douce, tu tapes dedans, sans retenue, pour que j'attrape un cancer de la peau, et quand je serai abîmée, tu vas te barrer. Mais casse-toi Mario, casse-toi. Trouve un travail, j'en ai marre de t'entretenir. Spéciale dédicace à tous les Mario qui sont dans la place. On en connaît quelques-uns. Les femmes, oui, ont joué un rôle prépondérant dans l'élaboration de ce style romantique et religieux de la rumba.
Orcas comme on a comme un abou kunangai, moyo yasika, baboti peba dimi. Okatinga motema mwana oyo, likambose a kitoko na yo na moni. Bolingo etoninga imotema, ezalise kozela kaka na bimisa. Akanisi etikali na ngambo, na kolela lela soki toko balana.
À l'instant, le lover Tabouley Rochereau, premier artiste africain à avoir joué à Paris, à l'Olympia. Rochereau, père du rappeur Youssoupha et pionnier de la rumba congolaise, donc avec Franco, que vous avez écouté tout à l'heure, et Papa Wemba notamment. Le documentaire leur rend hommage, ainsi qu'aux aux orchestres qui les accompagnaient, avec des images d'archives émouvantes, des interviews inédites et de belles surprises.
Harlem, tu avais Armstrong, tu avais Duke Ellington, tu avais Count Basie, Kinshasa, Léopoldville, c'est la même chose par rapport à l'Afrique, une métropole artistique. Tout le monde rêvait d'aller à Kinshasa.
Vous avez reconnu le plus congolais des Camerounais, tonton Manu Dibango. Dans son film, le réalisateur raconte aussi l'histoire d'une chanson intemporelle qui a bercé plusieurs générations, devenue l'hymne symbolique et officiel de l'indépendance de toute l'Afrique. On doit cette chanson à Grand Calais, Joseph Kabasele, auteur du premier tube panafricain en 1960, Indépendance, tcha tcha. Un documentaire à découvrir à la Gaîté Lyrique à Paris le 20 février dans le cadre du festival Fame consacré à la musique. Et donc, à l'instant, c'était Indépendance Tcha-Tcha de Grand Calais.
Mais où est-ce qu'on peut le voir, le documentaire, si on n'est pas à Paris?
Ah, comment vous dire?
Ah.
Il va certainement être diffusé...
quelque part.
Je mise tout sur Arte.
Quelque part, à un certain moment.
Ouais, voilà, je vous tiendrai au courant.
Si je peux me permettre, pendant votre chronique, je vous dis... Écoutez, voilà, à France Inter, on est comme ça, on est transparent, on m'a envoyé un article du Monde.
Numéro 1 sur l'info.
Numéro 1 sur l'info, qui me dit Kofi Olomide...
Oui, il a quelques soucis,
de la rumba congolaise, condamné pour la séquestration de 4 de ses ex-danseuses.
Ah, oui, oui, oui. Il y a des problèmes aussi avec l'immobilier, tout ça.
C'est le Jean-Luc Lahaye
Écoutez, on va canceler. Vous réécouterez en podcast où on aura cancelé Kofi Olomide et ce sera beaucoup plus simple.
Ça, tout a été dessus.
On a le panorama complet.
Alors, qui n'a pas de casserole dans ce studio aujourd'hui? Faites un petit tour de table, Alex. Qui est là?
Personne. personne. Non, bah non, cela non, en tout cas, c'est sûr que non. Mais enfin, on a entendu Aline, bon, vraiment, qui
fonctionne
tout et n'importe quoi. Hippolyte Girardot, qu'on a entendu aussi. Il nous reste Juliette Arnaud et Frédéric Fromet, mais avant ça, elle est là. Elle est là, en chair, en os. Venant d'un pays où tout est permis, ne pas mettre le masque, écouter Henri Dess en mangeant des ovos maltines, c'est Christine Gonzalez.
Vous savez, c'est bientôt la fin des mesures Covid et c'est un choc. C'est un choc, je ne vous le cache pas. Un choc pour l'au-delà, qui adorait que les vivants, eux aussi, s'embêtent tout autant que les morts. Donc c'est évident que si la vie reprenait comme avant, les inégalités entre vivants et morts se creuseraient davantage, si j'ose dire. Il faut bien comprendre que plus nous, on se sent vivants, plus eux, ils se sentent morts. Donc nos mouvements renforcent leur inertie, et ça, c'est assez terrible. Alors ça râle dans l'au-delà, ça râle beaucoup. Jean-Yann, bonjour.
Qu'est-ce qui vous arrive ?
Je suis à la radio.
Où ?
France Inter.
J'étais content de quitter la radio parce qu'il n'y avait plus rien à dire.
Non, je suis sûr que vous avez encore des choses à dire.
Non, j'évite de répondre parce que je sais que souvent, quand on me pose des questions, c'est pour que je fasse rire.
Vous avez peur qu'on pense quoi ?
Bah tiens, Yann est en baisse de forme, il est moins rigolo que d'habitude.
Non, aujourd'hui, je vous rassure, c'est pas pour rire. On sait à quel point l'éventuelle fin du Covid vous tracasse.
Non, je suis pas content de moi parce que j'ai pas été malin.
C'est-à-dire ?
Parce que j'aurais dû m'en douter.
Vous doutez qu'il y aurait un semblant de fin à toutes ces restrictions ?
Je savais bien que ça durerait pas pendant 150 ans.
Ouais.
Alors,
puis ça allait assez vite au fond. Hein.
Sûrement, c'était plus une
une belle période.
C'était une aventure et une rigolade.
Ouais. Et puis en plus, ça vous ramenait du monde.
Évidemment.
Mais oui, je comprends.
Là, je suis prêt à dire du mal de la France pendant très longtemps.
Mais c'est vrai que le pays peut faire mieux. À une époque, on était capable d'avoir 300 000 cas en un jour. Là, on est sous la barre des 100 000. Donc,
il n'y a que les Français qui n'arrivent pas à passer là-bas.
Ouais. L'épidémie est en être pris.
Je dis que c'est foutu.
Ouais, c'est dur.
Alors là, évidemment, j'ai craqué. Je ne suis qu'un être humain.
Qu'est-ce qui vous chagrine le plus, que la fête et la convivialité reprennent des couleurs ?
Le goût des gens s'est déplacé vers la sortie, vers les restaurants. Alors il faut arriver à lutter contre ces choses-là.
Mais sincèrement, lutter contre les sorties, le retour de la bise ou la queue au bar en discutant avec un inconnu, c'est une lutte vaine, hein, Jean-Yann.
Mais si je peux le faire, je le ferai.
On peut rien faire contre les grandes joies. Je ne veux pas en rajouter une couche, mais vous savez, par exemple, il y aura un autre changement qui réjouit les gens, c'est qu'on pourra bientôt manger du pop-corn au cinéma.
Pourquoi voulez-vous aller dans une salle voir un film sur un écran qui est à peine plus grand que votre écran de télévision ?
Je sais, ça n'a aucun sens, mais les gens aiment sortir, hein, que voulez-vous ?
Tais-toi, je fais une merde, je suis sur un... Bon, enfin, vaut mieux pas en parler.
Mais si, faut en parler, ça vous fera du bien. Les gens heureux et vivants sont parfois tellement arrogants, ça a un impact sur vous et c'est très égoïste.
Je trouve vraiment que les gens sont méchants et que c'est très probablement une des choses qui les rend les plus agressifs, les plus hargneux, les plus mauvais.
Alors, si je peux me permettre de nous défendre. Vous savez, nous, les vivants, on ne fait pas exprès parfois d'avoir de la joie. De temps en temps, c'est dans notre nature, ça monte, ça nous surprend, hop, on est content. C'est vraiment pas par méchanceté, vraiment.
C'est pas la peine d'aller chercher des excuses.
Vous savez, on n'a pas vraiment d'excuses, mais si ça peut vous rassurer, avec un peu de chance, il y aura un nouveau variant à l'automne, on ne sait jamais.
Ah, ben, très bien.
Bon, vous êtes toujours en colère ou vous êtes calmé ?
C'est-à-dire, je suis en colère et calmé.
Bon, allez, c'est mieux que rien, faut aller de l'avant.
J'essaie de passer le cap, peut-être j'y réussirai pas.
Mais si vous réussirez, j'en suis sûr. Bon, allez, je dois vous laisser, Jean-Yann.
Alors, bon, bah, vous y allez, hein ?
Oui, j'y vais.
Ah, bah, très bien.
Allez, je vous embrasse, courage, hein, bisous.
Bisous. Bisous, Jean-Yann.
Et t'es chonchon.
Oui, chonchon, il aime pas que les gens soient heureux.
Christine Gonzalez, merci. C'est un plaisir de vous avoir avec nous en studio.
En présentiel.
Mais oui, tout à fait. Et alors, en Suisse, on a retiré les masques alors ?
Oui, depuis jeudi. J'ai l'impression que c'était il y a 3 siècles, mais c'était fait hier. Mais c'est vrai que la sensation de retourner dans un supermarché, une épicerie, un bar et d'enlever son masque, c'est l'impression de faire un truc de dingue.
D'aller au supermarché à poil.
À poil. Ouais.
Génial.
On se dit, mais j'ai oublié un truc. J'ai oublié quelque chose. Ah non,
pardon,
voilà.
Je m'emballe un petit peu. Alex, est-ce qu'on passerait pas au quiz d'actualité ?
Mais j'allais vous le proposer. Évidemment. C'est ce que je faisais aussi quand vous n'étiez pas là. Je passais. Pardon. Alors, vous le
savez. Je ne veux pas savoir ce que vous faites quand je ne suis pas là.
Ouais. Gérard Depardieu. Ah, ça, il vient de se lancer sur Instagram. Ouais. On s'abonne. Et c'est pas le premier compte étonnant sur les réseaux sociaux. Parmi les comptes suivants, lesquels existent vraiment ? A. Éric Zemmour a un compte sur Tinder pour trouver un membre du RN à moins de 10 km de chez lui. François Bayrou vient de se lancer sur Facebook et il poke dans tous les sens et ça l'éclate. Il existe un compte Instagram pas officiel de l'animal de compagnie d'Emmanuel Macron. On ne parle pas là bien sûr de Christophe Castaner, on parle de Nemo, le Labrador. Et réponse D, Jean-Jacques Bourdin est sur Piscinder. Un compte pour trouver une piscine, près de chez lui, parce qu'il aime bien tout ce qui est maillot de bain et tout ça.
Et puis cette semaine, nous avons appris que le porte-parole du RN, Nicolas Bay, était un espion à la solde d'Éric Zemmour. Alors aide-nous à débusquer qui sont les taupes possibles dans les autres partis. Petit A, Éric Woerth a rejoint Macron pour le noyauter à la solde de Valérie Pécresse. Et comme ça, si personne ne le découvre, ça lui fait deux chances de devenir Premier ministre. Petit B, Fabien Roussel est un agent des Républicains infiltré au Parti communiste. D'ailleurs, Mediapart a des photos de lui à la boule, pull noué sur les épaules, en train de retourner des steaks sur un barbecue. Petit C, Jean-Paul Michard est la taupe de Philippe Poutou, infiltré chez Nathalie Arthaud. Petit D, Christiane Taubira est en réalité la couverture de Jean-Pierre Chevènement, qui ne devrait pas attarder à se déclarer candidat la semaine prochaine.
On a envie qu'il y ait des bonnes réponses. Et mon dernier exercice, vous avez entendu ce son hier, et pour ceux qui n'étaient pas là, je vous le rediffuse, Valérie Pécresse était interrogée sur sa passion pour le cinéma.
Moi, je suis une cinévore absolue. Moi,
Même en ce moment ?
En ce moment, c'est un peu plus dur, je vous cache pas. Mais dans deux mois, je me rattraperai.
Voilà, parce que dans deux mois, elle aura sans doute plus grand-chose à foutre Valoche. Et donc, parmi les événements suivants, lesquels seront vrais ? A. Dans deux mois, Marine Le Pen pourra compter le nombre de personnes qu'il reste au Rassemblement National. B. Dans deux mois, Anne Hidalgo pourra boire un café avec chacun de ses électeurs. C. Dans deux mois, Christiane Taubira pourra relire l'intégrale d'Aimé Césaire à l'envers dans sa traduction allemande. Et réponse D. Dans deux mois, Jean Lassalle pourra à nouveau faire ce qu'il fait, c'est-à-dire passer la tondeuse torse nu avec un petit pastis le dimanche.
Merci Alex. Peut-être qu'on va passer un disque, puis pendant ce temps, regarde si jamais il y a des tweets, des choses comme ça. Écrivez-nous, bien sûr.
Hashtag bien sûr.
Par Jupiter, bien sûr. Vous écoutez France Inter. Nous sommes ensemble jusqu'à 18h. À venir, Juliette Arnaud, un dessin, Frédéric Fromé.
And it was all amethyst. The under part of your eyes was violet. You hung a cigarette between your purple lips. We've been best buds since 13. I hold your head back when you're too. Deal. Hey, yeah, I know I've been.
Parks. Le titre, c'est Eugène. Alina Fanoukoué, vous adorez ça.
Ah, je suis fan d'Arlo Parks. Vraiment, elle a un phrasé, une douceur. Vraiment, j'adore.
Est-ce qu'on a son casier judiciaire?
Vérifier, elle n'a pas d'autres casseroles. Non, elle est clean. Elle a gagné
sur la playlist
Londres,
France Inter, j'ai l'impression. Alors, chers amis, alors, je dois vous faire un aveu. J'ai fait une boulette. C'est des choses qui arrivent. Ah. Et bon, après, je me remets dans le bain. Hein. Oui, ça arrive. Alex, ça arrive, je sais.
Voilà. Oui, enfin, me ça suis pourrait arriver les trois dernières semaines.
Et... je me suis plantée dans le planning des chroniqueurs. Voilà, vous savez, moi, les tableaux Excel. Hein. Bon, le vendredi, en plus, bon, une fois, c'est Juliette, une fois, c'est Clara. Y a bien un moment où ça devait arriver. Aujourd'hui, c'est ni l'une ni l'autre. J'ai appelé Juliette Arnaud tout à l'heure, vers 16h. J'ai dit, mais qu'est-ce que tu fous? D'habitude, t'es là, on t'attend. Elle m'a dit, bah, c'est pas mon jour, c'est Clara.
Mais oui.
Je fais, ah, merde, j'appelle Clara. J'ai dit, elle me dit, non, c'est pas moi. Aujourd'hui, c'est Juliette. Donc, ouais. Écoutez,
en même temps, j'assume. Si vous m'aviez demandé, moi, faites la chronique littéraire. Hein, je suis habitué à faire des remplacements ces derniers temps.
Alex, quand même, je veux dire, comme ça, en une heure, vous auriez pu écrire une chronique littéraire?
Bien sûr.
Ah bon? Mais sur quel roman?
Mais sur n'importe quel roman, moi, c'est ce que vous voulez. Vous dites le roman, moi, je fais la chronique, et puis voilà.
Mais attendez, comment ça, n'importe quel roman?
Je sais pas, dites un titre au hasard que j'aurais pu faire la chronique.
Et... je sais pas, je vais prendre une sortie récente. Ouais. Monument national de Julia Deck, aux éditions de Minuit.
Par exemple. Voilà, si vous m'aviez dit, fais une chronique sur de Julia Deck, moi, j'aurais fait la chronique, quoi.
Ah bon? Mais Alex, vous l'avez lu, vous l'avez
dit? Bien sûr que non, que je ne l'ai pas lu. Mais pourquoi s'il faut lire les bouquins avant pour faire les chroniques? Vous croyez qu'elles font ça, les deux autres? Je pense pas, non. Donc voilà, je peux le faire sur n'importe quel livre. Vous me donnez le livre, je fais la chronique.
Évidemment.
Vous l'avez lu, Monumental Machin, Julia Deck, là?
Monument National. Pardon. Ouais. Oui, c'est le dernier roman que j'ai lu, moi. Donc,
Mais pourquoi vous ne l'avez pas fait la chronique, alors? Si vous l'aviez lu.
Vous avez décidé de me contrarier dès mon retour, là, c'est ça? Bon, alors écoutez, c'est ce qu'on va faire. Voilà, je propose de réécouter une chronique de Juliette Arnaud.
Alors que vous auriez
en novembre dernier. Non, mais taisez-vous, c'est bon. On avait fait déjà assez fait. Reposez-vous. Novembre 2019, on est allé chercher dans les archives. Vous soyez un petit peu surpris quand même.
On aurait pu avoir une récente, si l'aviez fait vous.
Vraiment, là, je. Ils m'ont diaphragme qui voulait que je revienne en arrêt ou quoi. Voilà, et là, Juliette, novembre 2019, s'est écartée du roman pour nous proposer un livre de sociologie.
J'aurais pu faire de sociologie, parce que j'ai bien
choisi. Oui, mais c'est sociologie de l'amour.
Ah non, ça, ouais, ça non.
Et oui.
Alors, il y a tellement de définitions de l'amour selon qu'on questionne des gens de lettres qui ne sont pas d'accord entre eux, ou des religieux qui ne sont pas d'accord entre eux, ou des psychiatres qui ne sont pas d'accord entre eux, mais également selon les époques, selon les civilisations, les pays, c'est à se demander si l'amour, c'est pas en fait le schmilblick. Alors l'original, hein, pas celui de Guy Lux, celui de Pierre Dac, vous savez, le pote de Francis Blanche, une des voix de Radio Londres, les Français parlent aux Français, bref, un type quand même qui sait ce qu'il dit. Alors il définissait le schmilblick de la sorte, objet qui ne sert à rien, et donc peut servir à tout, car il est rigoureusement intégral. Bam ! Définition parfaite de l'amour, sauf que ça marche pas parce que l'amour n'est pas un objet. Alors, quoi faire? Eh bien, faisons simple, comme les âmes simples que nous sommes un vendredi fin d'après-midi de 1er novembre pendant lequel il peut des crapauds façon biblique. L'amour, deux points, ouvrez les guillemets, un sentiment et ou une étreinte. Ah, le charme de la conjonction et ou. Maintenant qu'on est au clair sur l'amour, voici un livre pour vous éclairer sur... l'étreinte. Les vôtres, les miennes, celles de Charline, celles d'Alex, celles de Djoubaka et même celles de cette Suisse de Christine, puisqu'il s'agit de la vie sexuelle en France et pas la vie sexuelle des Français. Donc si jamais Christine, vous avez des relations sexuelles, vous êtes dans cette enquête. Après ce livre, vous pourrez dire comme moi, j'ai été au lit avec les Français, en tout bien, tout honneur, puisque ce livre est une enquête menée par une sociologue sur un sujet ardu, parce qu'autant il est aisé de répondre toute la vérité, rien que la vérité à propos des biscottes, par exemple. Autant sur sa vie sexuelle en général, on est moins prolixe et somme toute, c'est bien naturel, il s'agit d'une chose intime. La sociologue Jeannine Mossu-Lavaux a donc pris son temps avec chacun de ses témoins qui constituent son panel, des femmes, des hommes, des lesbiennes, des gays, des bisexuels, des hétéros, des jeunes, des vieux, des en couple, des en liberté, des fidèles, des collectionneurs, des bourgeois, des employés. Bref, si c'est pas tout le monde, c'est représentatif et si c'est pas l'exacte vérité, ça s'en rapproche. Et c'est passionnant de lire les mots des autres. la vie des autres, c'est fascinant. Il n'y a pas besoin de pratiquer les méthodes douteuses de la Stasi pour s'y adonner. Les mots des autres, quand ils parlent de plaisir, par exemple, c'est un abandon total. C'est je ne contrôle plus du tout mon corps. C'est je perds mon cerveau. C'est le moment où on se fout le plus de ce qui se passe sur Terre. On a juste envie d'exprimer ce qu'on a le plus au fond de soi. On s'en fout du monde. Et quand l'étreinte est brisée, ça arrive quand on sort d'une rupture, qui fait quoi? Qui s'adonne à la polygamie compensatoire? Alex?
Non.
Qui chérit une chasteté réparatrice? On dira pas c'est qui. Et encore
bah
plus,
voilà,
et c'est encore pas plus passionnant de comprendre qu'en 2019, il y a des tas de tabous qui sont tombés. Si les gens n'en parlent pas forcément en société, les gens ont des vies sexuelles bien plus libres que moi ce que je m'imaginais. Et néanmoins, il y a un tabou qui demeure. Un endroit où il n'y a plus de mots. Et ça n'est pas le chevillage, oui, moi non plus, je ne savais pas ce que c'était avant ce livre, ou la transsexualité, c'est la situation suivante. Vous êtes à un dîner et un membre d'un couple, marié ou paxé ou en concubinage, pas forcément âgé, le couple, dit « Nous, oh, ça fait longtemps qu'on baisse plus. » C'est là l'endroit de l'omerta. Pourquoi? Que faire? Est-ce normal? Faut-il se résigner? L'autrice pose les questions, les témoins protégés par l'anonymat répondent. Et une fois le livre refermé, je vous mets au défi de ne pas entendre Jacques Dutronc dire « Et moi? Et moi? Et moi ?» Merci, bisous, merci.
Juliette Arnaud, quelles sont les références de cet essai?
Alors c'est pas cher puisque c'est chez Point, elle s'appelle Janine Mossu-Lavaux et ça s'appelle tout simplement « La vie sexuelle ». En France!
Et c'est un poche.
Ouais, c'est chez
Le
Point.
Chevillage, qu'est-ce que c'est?
Allez taper sur Google.
D'accord. Moi, j'ai oublié de me demander. Ça manque un petit peu les rires de Juliette et Clara, des fois.
Hein. Oui, c'est pas faux.
Si on refaisait un bout du sketch avec leur rire, vous allez voir la différence.
C'est un sketch.
Ouais. Mais comme ça, en une heure, Alex, vous pouvez écrire une chronique littéraire, vous.
Bah, bien sûr.
Ouais. C'est sur quel roman?
Mais n'importe lequel, vous avez qu'à demander.
Comment ça, n'importe lequel?
Bah, dites un titre au hasard.
Monument national, Julia Deck, voilà.
Vous l'avez dit, je fais une chronique là-dessus.
Ah, ah bah oui, ça marche pas mal. Hein. Ça marche hyper bien. On la retrouve lundi, bien sûr. Si on passait au dessin, les amis, je vous propose de consacrer cette petite séquence à notre amie Constance, qui prend un petit repos forcé, mais très mérité en ce moment, et qu'on retrouvera bientôt. Envoyez-nous un petit poème ou un dessin qui évoque les chroniques de Constance. Le thème, ce serait... ne vous faites pas mal non plus.
Oui.
Le thème, ce serait la journée mondiale de Constance.
Oh.
Et envoyez votre poème ou votre dessin à notre adresse parjupiter@radiofrance.com et on va lui transmettre. Elle qui nous écoute, on l'embrasse très très fort. Et puis voici celui qui joue de la guitare, mais qui n'a sans doute pas anticipé qu'après cette chanson, il pourrait lui manquer 3 doigts.
Oui, en tout cas, si Vladimir Poutine nous écoute, je tiens à lui dire que je n'ai pas entendu la chanson avant et que je ne l'aime pas, cette chanson. Il va chanter Frédéric Fromet.
Oui, donc à cause du conflit en Ukraine, la nuit dernière, j'ai fait un cauchemar. Sa prochaine tournée passant vraiment par la Russie, j'ai été contacté par Mylène Farmer. Elle voulait que j'adapte son répertoire, mais j'ai tout foiré.
Je suis Poutine, je suis un coquin. Je vous piétine, si vous, pas mon copain. Je connais bien vos petites blagues faciles, vos petits jeux de mots niveau maternel. Je vous préviens, je balance un missile à celui qui dit Vladimir pour la vaisselle. Je suis Poutine,
c'est nul.
Je suis un coquin. Je vous piétine. Si vous, pas du Kremlin. Je dois vous prévenir, il faut pas m'en contredire. Car sans contrefaçon, je suis un glaçon. Pour garder mon empire, je saurais vous refroidir. Puisque sans contrefaçon, je suis un glaçon. Lorsque je vous dis niette, c'est pas d'assez niette. Niette, 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 niette. Faut pas chercher la petite bête au suprême soviet. Niette, 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 niette. Je suis un ours, j'ai déjà posé torse nu par moins 40 degrés. À celui qui redit Vladimir pour la vaisselle en Sibérie, je le congèle. Faut pas contredire, sinon vous allez mourir. Car sans contrefaçon, je suis un glaçon. Vous allez mourir si vous osez soutenir qu'il
y a de la contrefaçon dans mon élection. Que ce soit la Crimée ou l'Ukraine, pourvu qu'elle soit russe, Emmanuel Macron ou Joe Biden, pour moi c'est comme le cirque grusse. Que ce soit la guerre, la fin du monde, pourvu qu'elle soit russe, à la retraite je pense pas une seconde, même si je suis un papyrus. Tout est chaos, c'est le KGB. Je pratique les arts martiaux, je suis musclé. Je cherche une âme qui saura m'affronter. Je suis la génération du KGB. Faut pas me chercher.
Sponsible.
Sponsible.
Merci Frédéric Fromé.
Ah, nous avons un appel de l'ambassade de Russie à Paris. Je vais vous laisser régler ça entre vous.
Non, ils veulent vous offrir un thé.
Ouais. Donc on ne donnera pas vos dates de tournée, Frédéric Fromé, car on tient énormément à vous. Merci. Donc on ne donnera pas les dates à personne. Merci à tous les amis. Merci Christine Gonzalez. Merci Pauline Girardot, Alina Fanoukoé. Merci Alex Durek. Merci Frédéric Fromé. Et bien sûr, merci à toute l'équipe qui prépare cette émission, nos attachés de production Nathalie Romero, Fabrice Rivaud, Mathias Volant, accompagnés de Camille Berne. À la réalisation cette semaine se sont succédés François Audouin, Hélène Bizio, Stéphane Ronxin, Céline Hila et Anna Bouy, bien sûr. Et oui, vive le Covid et les tests positifs et tous nos tests. Rédaction en chef Ramzi Assadi qui lui est là tous les jours. Programmation musicale, c'est Djoubaka bien sûr. À la technique aujourd'hui, Ludovic Asselot, Florian Dorigny, et à la vidéo, merci à Antoine Teboul. Bon week-end à tous. À lundi, nous recevrons la romancière iranienne Negar Javadi.
Les orientales ont vraiment quelque chose d'étrange dans le regard.